Le dossier syrien, une nouvelle fois dominé l'actualité cette semaine. Il était notamment au centre de la réunion du G8 qui s'est tenue en Irlande du Nord. Rien de véritablement décisif. Les participants ont appelé à l'organisation dès que possible de la conférence sur la paix dite Genève 2. Initiée par Washington et Moscou pour ouvrir des négociations entre régime et opposition et parvenir à une solution politique, elle était initialement annoncée pour le mois de juin, mais n'a toujours pas eu lieu. Monseigneur Mario Zenari, le nonce apostolique à Damas, nous confiait toute son amertume.
Reporter, vraiment, ça fait du mal, parce que chaque jour qui va passer sont des jours de souffrance, de versement de sang, etc. Il faut arriver à cette solution, une solution politique, et l'espoir qui avait donné cette conférence, c'était un bon espoir. Bien sûr, ce n'est pas facile, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés, mais je crois qu'il faut de bons compromis pour arriver à une solution politique. Il n'y a pas d'autre solution.
Monseigneur Zenari s'exprimait depuis Rome, où il a participé à la 86e Assemblée de la Ruaco, la réunion des œuvres pour l'aide aux églises orientales. En recevant les participants jeudi dernier, le pape François a lancé un nouvel appel à la fin des violences en Terre Sainte. Il a également demandé de ne pas oublier les réfugiés et les personnes déplacées, en particulier les populations syriennes. Monseigneur Louis-Raphaël Ier Sacco, patriarche de Babylone des Chaldéens, était également présent lors de cette rencontre. Intervenant sur nos ondes, il a appelé le Saint-Siège à un soutien plus concret et plus direct des chrétiens du Moyen-Orient.
Le Saint-Siège a un rôle à jouer, pas seulement regarder les choses, soit en Irak, soit maintenant en Syrie. La politique de l'Occident est tout à fait pour ces conflits-là, parce qu'il y a ici des intérêts économiques et politiques. Mais pour nous chrétiens, nous n'avons que le Saint-Siège qui doit nous soutenir, nous encourager. Même nos politiciens musulmans attendent quelque chose de plus actif, plus positif de la part du Saint-Siège. Donc ça, c'est très important.
L'élection en Iran d'Hassan Rouhani a fait ces derniers jours l'objet de nombreuses analyses. Le chef de l'État iranien est présenté comme un modéré. Surnommé le cher diplomate, il a fait naître certains espoirs au sein de la communauté internationale, en particulier concernant l'évolution des dossiers syriens et du nucléaire iranien. À quoi peut-on s'attendre? C'est la question que nous avions posée à Mohamed Reza Jalili, professeur émérite à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève.
Sur la Syrie, je ne pense pas qu'il y aurait d'évolution, en tout cas dans les prochaines semaines ou mois, mais peut-être sur le dossier nucléaire, il y aura une certaine souplesse. L'Iran veut absolument assister à ces négociations, c'est surtout la communauté internationale, surtout la France qui se pose à sa venue. Je pense que c'est une erreur de la politique française, dans la mesure où la diplomatie, ce n'est pas prendre des tasses de thé avec des amis, mais aussi avec les pays avec lesquels on a des problèmes.
De l'autre côté de la frontière, en Afghanistan, le président Hamid Karzai ne décolère pas. Après l'annonce de négociations de paix entre les États-Unis et les talibans, qui ont annoncé mardi dernier l'ouverture d'un bureau politique à Doha, l'émissaire américain chargé de négocier avec les talibans est d'ailleurs arrivé hier au Qatar. Quelles sont les intentions de Washington vis-à-vis de l'Afghanistan? Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l'IRIS, nous livrait son analyse.
Les Américains voudraient pouvoir se débarrasser de Karzai et puis surtout essayer de mettre quelque chose de solide derrière eux quand ils partiront ou quand ils partiront partiellement. Et mettre quelque chose de solide avec Karzai à sa tête, ils savent d'ores et déjà que c'est pas possible. Donc ils préparent déjà la transition en essayant de trouver du côté des légitimistes, des gens qui soient présentables, c'est pas facile. Et du côté des talibans, des gens qui soient capables de négocier, c'est pas facile non plus. Et la seule solution, c'est de le faire en dehors de Kaboul, bien entendu. La solution, c'était de trouver un terrain relativement neutre, le Qatar étant pas mal pour ça.
Nous refermons cette rétrospective avec une publication historique. « Du conflit à la communion », c'est le nom du texte qui en effet été publié lundi dernier par les luthériens et les catholiques en vue du 5e centenaire de la Réforme. 14 ans après la déclaration conjointe d'Augsbourg sur la doctrine de la justification. Fruit de 4 années de travail de la Commission bilatérale pour le dialogue, ce document parcourt l'histoire, souvent douloureuse, des relations entre catholiques et luthériens, s'attarde sur les progrès théologiques accomplis depuis le Concile Vatican II et évoque également les points de divergence encore existants. Le père Michel Fédou, membre de la Commission luthérienne catholique, à l'origine de ce texte, nous en décrivait toute l'importance.
C'est la première fois qu'on assiste à une commémoration œcuménique du début de la Réforme. Jusqu'ici, ça n'avait jamais existé. Il y a eu bien sûr des déclarations du pape Jean-Paul II, du pape Benoît XVI, à propos de Luther, il y a eu des textes qui ont été produits, mais c'est la première fois que les commencements de la Réforme donnent lieu à une commémoration œcuménique. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite pour l'année 2017. Comment vivre cette commémoration et comment la célébrer ?